En effet, le Seigneur nous gardera, quelles que soient les voies dans lesquelles il nous conduit. On peut être s'appuyer sur cette promesse qu'il nous gardera fidèlement. On est dans une étude sur le livre des rois pendant cet été. Et on est arrivé déjà au deuxième livre. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Rois chapitre 11. De Rois, chapitre 11. L'un des modes d'apprentissage les plus plébiscités est l'alternance. Les contrats d'apprentissage, un élève apprend au pied de son maître, et puis il l'observe tout d'abord, ensuite il fait avec le maître, ensuite il fait seul sous le regard avisé de son maître, jusqu'à ce que, un jour, devenu lui-même maître, il est en mesure de faire seul et surtout d'enseigner un plus jeune que lui. La vie chrétienne est marquée par ce modèle de maître et de disciple. Jésus s'est choisi des disciples pour les avoir avec lui. Pendant 3 ans, il les a formés, il les a enseignés. Et puis, après sa mort et sa résurrection, Jésus a commandé à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples qui, à leur tour, feront des disciples, qui feront des disciples. Et nous voilà, nous aujourd'hui, parce que quelqu'un nous a parlé, parce que quelqu'un nous a instruit dans sa parole, nous avons connu le Seigneur et puis nous sommes responsables maintenant de transmettre et de modeler un disciple. Nous avons aussi vu des gens attachés à un maître, à un pasteur, à un grand frère, et lorsque leur mentor s'en va, ou tombe, ou meurt, le disciple abandonne et se détourne. Et c'est l'histoire que l'on va voir aujourd'hui, c'est l'histoire de Joas. Tant que Jéhojada, son mentor, si je peux dire, est là, tout va bien, mais quand il meurt, tout s'effondre. Gardez en tête cette pensée. Un mentor peut vous guider vers Dieu, mais seul Jésus peut vous garder en Dieu. Avant de se lancer dans la lecture, j'aimerais que l'on regarde un petit peu plus la généalogie pour essayer de ne pas vous perdre trop vite. Merci à Nicolas qui a fait cette généalogie des rois d'Israël et de Juda. Ici, vous avez la lignée de Juda, c'est la lignée de David, celle dont Jésus-Christ est issu, et puis ici, la lignée d'Israël. On a vu récemment Akab et Jézabel, un couple diabolique, roi d'Israël et adorateur de Baal. Et puis on avait ce bon roi, Josaphat. Il a régné en même temps à peu près qu'Akab. Il a été là à la bataille où Akab a été tué. Et puis, remarquez ici que Josaphat, pour avoir la paix avec Akab, il a donné son fils à Attali. Attali, qui est la fille d'Akab et de Jézabel, qui ressemble beaucoup à sa mère. Et eux deux ont eu plusieurs enfants. Akazia, c'est celui qui est tombé par sa fenêtre, vous vous souvenez, au début de Roi 1. Et puis Joram, un autre fils d'Akab, qui a été lui-même tué, on l'a vu ça la semaine dernière, par Jéhu, le roi justicier, le roi d'Israël. Jéhu a aussi tué Akazia, qui était le fils de Joram et d'Atali. Et quand Jéhu a tué Akazia, Atali, sa mère, s'est installée sur le trône en faisant tuer tous les autres fils d'Akazia. Elle a liquidé la lignée, sauf que Josheba, la tante de Joas, a sauvé Joas. Vous me suivez? Josheba, c'est une autre fille de Joram, elle est fille du roi. Je l'ai pas mis de la même lignée que Athalie. Je pense que c'est une autre. J'ai des arguments pour ça, mais d'une autre mère. Mais elle est fille du roi, et donc elle est la tante de Joas, et elle a sauvé Joas. Il avait un an. Elle l'a protégé, et elle l'a caché dans le temple. Et pourquoi est-ce qu'elle a pu le cacher dans le temple? Parce que elle est l'épouse de Jéhojada, le souverain sacrificateur. Vous voyez le truc? Elle l'a protégé merveilleusement. Athalie, en grand-mère exécrable, a fait tuer tous ses petits-enfants. Vous voyez? Sauf Joas qui lui a échappé. Elle ne devait pas savoir qu'il existait en mauvaise grand-mère. Si vous gardez tout ça en tête, on est prêt pour la lecture, si vous voulez bien. En 2 Rois, chapitre 11, on va lire les premiers versets, et puis je vous indiquerai les versets suivants. 2 Rois, chapitre 11, Athalie, mère d'Akasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akasia, prit Joas, fils d'Akasia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits, et il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs des centaines, des Kérétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux, et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi, Joas. Verset 12. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi, éloignirent, et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage. Les chefs des trompettes étaient près du roi, tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration, conspiration !» J'ai bien fait le côté acariâtre, hein, là, vous avez vu ? Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête de l'armée. « Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. Et c'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel et le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement les autels et ses images et ils tuèrent devant l'autel Matan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants sur la maison de l'Éternel. Il prit des chefs de centaines, des Kérétiens et des coureurs, et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Siba de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais voir ce matin le cadeau d'un mentor donné par Dieu. Jéhojada, c'est vraiment une figure clé de ce passage. Avec son épouse Josheba, il protège, il élève secrètement Joas, il organise son intronisation, il restaure l'alliance et le culte. Imaginez ce que ça représente pour un jeune orphelin âgé d'1 an qui a perdu tous ses frères et sœurs assassinés par sa propre grand-mère, d'être recueilli par un couple comme Josheba et Jéhojada. Merveilleux. Joas s'est marié, il a eu des fils et des filles sous l'influence de Jéhojada. Et après cela, la Bible dit qu'il a eu à cœur de réparer la maison de l'Éternel. Et il organisa alors, avec les sacrificateurs, une grande levée de fonds. Tiens donc, comme nous. Et l'argent est arrivé, mais au lieu de l'utiliser pour la restauration du temple, les sacrificateurs l'ont utilisé pour des affaires courantes. Il faut dire que le temple avait pas mal souffert des 6 dernières années avec Athalie, adoratrice de Baal, et plus rien n'avait été fait dans le temple. Et puis, les fils qui avaient précédé étaient pas meilleurs que qu'Athalie, et du coup, le temple avait bien souffert. La Bible dit au chapitre 12 toujours, verset 6, que la 23e année de son règne, Joas a alors à peu près 29-30 ans, et les travaux n'ont toujours pas commencé. Il s'en rend compte, un peu tardivement peut-être. Il reprend les choses en main, place un coffre dans l'esplanade du temple, un endroit où on ne peut pas le manquer, vous voyez, si on mettait ça dans le hall, là... Tout le monde passe devant et il mandate Jéhojada de collecter et de payer directement les ouvriers pour les travaux. Et ça fonctionne bien. 2 Chroniques 24, verset 13 dit « Ils remirent en état la maison de Dieu et ils la consolidèrent. » Il y a même du reste pour pouvoir accomplir tout un tas d'autres choses, d'autres ouvrages, et pour offrir continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Et 2 Chroniques 24, 14 dit « Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. » Voyez-vous, ça a fonctionné. Un mentor a pris soin de ce jeune homme, de ce petit garçon même, devrais-je dire, et puis il a sauvé sa vie. Il l'a protégé, il a organisé l'accession au trône, son mariage, son projet de rénovation du temple et la restauration du culte de l'Éternel. Tout ça, c'est l'influence de ce bon mentor qu'était Jéhojada. C'est le fruit de son influence. Vous savez, Dieu utilise des mentors spirituels pour préserver la foi et pour guider vers la piété. Nous avons besoin de modèles, nous avons besoin de personnes qui nous instruisent, qui nous conseillent, qui nous aident à faire nos choix. Certains d'entre nous ont eu des parents attentionnés, qui nous ont aidés, qui nous ont influencés, qui nous ont aussi aidés à faire nos choix. Et puis nous avons aussi choisi d'autres personnes comme conseillers, parce que nous avons reconnu chez ces personnes un modèle sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan de la piété. Et dans la vie chrétienne, nous avons besoin de mentors, nous avons besoin de gens vers lesquels on peut se tourner. Samuel a cité 2 Timothée 2:2 tout à l'heure pour... Dany et JP, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à d'autres qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et c'est comme ça que se transmet la vie chrétienne, l'attachement au Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mentor ? Un bon mentor, c'est quelqu'un qui a une expérience pertinente. Jéhojada, il est souverain sacrificateur, il est nettement plus âgé que Joas, puisqu'il meurt à 130 ans, selon 2 Chroniques 24, 15, et il meurt pendant le règne de Joas, et Joas, lui, meurt à 47 ans. Il a une longue et riche expérience de la cour. Il est marié à une fille du roi. Et puis, il est fondé dans les Écritures. Il est attaché à l'Éternel dans une époque qui est assez sombre. C'est un bon mentor. Il n'a pas besoin d'avoir tout réussi, mais il a accumulé une expérience riche et variée dans un domaine pertinent, peut-être incluant même des échecs, mais dont il a tiré des leçons. Voilà ce que c'est qu'un bon mentor. Un bon mentor, c'est aussi quelqu'un qui a de l'empathie et de la bienveillance. Jéhojada et Josheba, son épouse, ont recueilli ce petit garçon d'un an et ils l'ont élevé comme leur protégé, comme leur propre fils. Ils ont joué le rôle de père et de mère pour lui. Un bon mentor, c'est aussi quelqu'un qui est encourageant et inspirant. Jéhojada a clairement inspiré Joas, même quand il nous est dit que Joas a eu à cœur, eu la pensée de restaurer le temple. On voit bien que c'est l'influence. C'est-à-dire que l'influence d'un mentor nourrit votre pensée, vos cœurs et vous aide à établir vos propres choix et faire vos propres choix. Un bon mentor a aussi une éthique de confidentialité. Il agit avec intégrité. La discrétion est vitale dans l'histoire de Joas. Pendant 6 ans, personne ne savait, connaissait l'existence de Joas, hormis sa nourrice, Josheba et Jéhojada. Et même si au début du règne de Joas, Jéhojada était super influent, puisque à 7 ans, quand il est sur le trône, on imagine bien que c'est Jéhojada qui conduit un peu le royaume. Mais il ne s'est jamais pris pour le roi, contrairement à Athalie. Voyez l'éthique, l'intégrité. Un bon mentor est aussi quelqu'un qui est disponible et engagé. Il se mouille à vos côtés. Ici, c'est Josheba et Jéhojada qui risquent leur vie, leur propre vie, en cachant cet enfant. Et puis, et c'est peut-être là où je voudrais attirer votre attention, un bon mentor, il a une vision à long terme. Il voit plus loin que le problème immédiat. Josheba et Jéhojada ont clairement discerné l'enjeu. En préservant le bébé, ils ont été les instruments de Dieu pour veiller sur la lignée, sur la dynastie de David. Si je vous remets la slide, c'est la lignée de David, à ce moment-là, Athalie règne depuis 6 ans. Elle est usurpatrice du royaume, du trône. Elle n'a rien à faire, elle n'est pas de la descendance. Et elle met à mort tous les descendants de David, sauf un petit bonhomme d'un an. Et Josheba et Jéhojada, ils savent cela. Ils ont compris que la lignée de David ne tient plus qu'à un fil et il fallait préserver ce petit Joas. Ils voient que son intention est de vraiment mettre un nouveau descendant de David sur le trône. Si Athalie avait eu du succès dans ses plans, la lignée d'où le Seigneur devait être suscité aurait été interrompue. Il n'y aurait plus de fils de David en Juda, plus de Messie, et donc pas d'espérance pour les pécheurs que nous sommes. Il voyait à long terme. Si vous recherchez un bon mentor, cherchez quelqu'un qui, en plus d'une écoute active, d'une capacité à poser les bonnes questions, qui est honnête, franc, humble, il faut qu'il possède une expérience pertinente, de l'empathie, qu'il soit disponible, encourageant et inspirant, qu'il possède une vision à long terme. En 2 Chroniques 24-16, il est écrit « On enterra Jéhojada dans la ville de David ». avec les rois. Avec les rois. Le souverain sacrificateur ici, Jéhojada, a été enterré avec les rois. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il avait agi pour le bien en Israël, pour la cause de Dieu et de son temple. Alors cherchez un homme de qui on pourrait écrire une telle épitaphe. Et si vous souhaitez être un mentor pour quelqu'un, recherchez à être un tel homme. Mais gardez-vous du danger d'une foi dépendante d'un homme. Joas fait le bien tant que Jéhojada vit. Mais après, il tombe, je lis en 2 Chroniques 24, verset 17. Écoutez ça. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Voilà ce qu'il a écouté. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada. J'aurais dû l'ajouter dans mon exposé là. Fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et il lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi, Joas, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Voyez la chose ? À peine Jéhojada est mort, ils abandonnèrent la maison de l'Éternel et ils servirent les Astartés et les idoles. Verset 19, ils n'écoutèrent pas les prophètes que l'Éternel leur a envoyés. Et verset 20 à 22, et lorsque Zacharie, le fils du sacrificateur Jéhojada, les avertit, ils le font mourir par ordre du roi. Zacharie, le fils de son bienfaiteur. Le commentaire du verset 22 est terrible, je trouve. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada. Vous savez, le mentorat peut vous aider à la croissance, mais il ne peut pas changer votre cœur. Seul Dieu peut faire cela. Il manquait à Joas une relation personnelle avec Dieu, indépendante des hommes. Il a écouté les hommes plutôt que Dieu. Il lui a manqué la reconnaissance envers Jéhojada et envers la grâce de Dieu envers lui. Et puis lui a manqué l'humilité pour accepter la réprimande de Zacharie. Du coup, quelques mois plus tard, il lui a manqué cette relation de confiance en Dieu. Et au moment d'une crise, face à Hazaël, le roi de Syrie, Joas achète la paix en prenant des trésors du temple et de la maison royale, au fond, tout ce que lui a pu amasser, tout ce que ses pères ont amassé, il a tout pris, après avoir reconstruit le temple, il a tout pris et il a tout envoyé au roi de Syrie pour avoir la paix avec lui. Le roi de Syrie l'a pris, puis il est revenu. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, il cède à la peur plutôt qu'à la foi. Finalement, il est assassiné. Joas est assassiné par deux de ses serviteurs. Et son fils Amatsia règne à sa place. Si vous êtes parent, si vous êtes mentor, votre rôle est crucial. Vous n'êtes pas le sauveur. Votre rôle est de faire en sorte que vos enfants, vos disciples se confient en Christ, le Sauveur. clairement, quand on est parent, on sait ce que nos enfants doivent faire. Et on a tendance à leur dire immédiatement, fais ça. Gardez-vous de faire ça. Dites-lui plutôt, fais ce que Christ te demande de faire. Poussez-le à chercher Christ, à se confier en lui, à chercher la volonté du Seigneur pour lui-même, dans la prière, dans les Écritures, de sorte qu'il s'attache à la réponse que le Seigneur lui a donnée lui-même. Disciples, ne fondez pas votre foi, ou enfants, ne fondez pas votre foi sur une personne humaine, vos parents, ou un leader, ou un pasteur, mais sur une relation personnelle avec Christ. Du coup, nous avons besoin d'un mentor éternel et parfait. Jésus, notre roi et notre souverain sacrificateur, ne meurt jamais. Il intercède toujours pour nous. Hébreux chapitre 7, versets 23 à 25, je vous lis. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, comme Jéhojada. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et ça, c'est certainement encore une qualité d'un mentor. Il prie pour son protégé. Oui, quel que soit le mentor humain que vous allez choisir, un jour, il mourra. Ou un jour, il ne sera pas là où vous avez besoin de lui parler. Ou un jour, il vous décevra. Alors, que deviendrez-vous si votre marche dépend de la présence de cette personne à vos côtés? Si Jésus est votre mentor, alors votre maître, vous pourrez marcher tous les jours, toute votre vie avec lui à vos côtés. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus seul ne vous décevra pas. Comment avoir Jésus comme mentor, ou plutôt comme maître, selon le vocabulaire du Nouveau Testament? Je trouve que l'histoire de Joas illustre merveilleusement le salut. Joas est un petit bonhomme d'un an, un bébé. Il dépend entièrement de son entourage pour survivre. Et qu'est-ce qu'il a ? Il a une grand-mère qui a une obsession, tuer tous ses petits-enfants. Il ne peut rien faire pour sauver sa vie, rien. Nous ne pouvons rien faire pour sauver notre vie. Nous sommes sous la menace de la mort. Nous sommes sous la puissance du péché de ce monde. Nous avons un ennemi redoutable qui veut perdre chaque âme. Mais Jéhojada et Josheba se sont saisis de cet enfant, de ce bébé, et ils l'ont caché et ils l'ont protégé. Jésus-Christ veut faire cela pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Il se saisit de nous par la foi. Nous pouvons répondre et nous laisser saisir par lui. Et puis lui, il va nous protéger. Il va nous garder. Il va nous nourrir. Il va prendre soin de nous. Et puis, il va nous établir comme ses fils et ses filles. Vous avez vu ça? Jéhojada et Josheba ont adopté Joas dans leur propre famille. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut vous adopter dans sa propre famille. Quand un enfant est adopté dans une famille, qu'est-ce que l'enfant fait? Il ne fait rien. Ce sont ses parents adoptifs qui font tout. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous adopte. C'est lui-même qui paye la rançon. C'est lui-même qui paye le prix. Et il l'a payé d'une manière merveilleuse, extraordinaire. Il s'est livré à la croix pour nous. Il a épuisé totalement le prix de notre rançon. Il l'a pris sur lui et il en a donné la preuve en ressuscitant d'entre les morts. Voilà comment est-ce qu'on devient un disciple de Jésus-Christ, un chrétien, lorsque on place notre confiance dans celui qui est mort pour nous et qui nous accepte dans sa famille et qui établit désormais une relation père-fils avec nous. Qu'est-ce que vous avez à faire? Reconnaissez que vous avez besoin de lui. Repentez-vous. Et croyez en Jésus. Et Jésus veut développer avec nous une relation personnelle, intime. L'apôtre Paul, en Éphésiens, compare cette relation avec celle d'un couple. Éphésiens chapitre 5. Nous pouvons, et peut-être c'est votre expérience personnelle, nous pouvons avoir un ami qui nous présente à une merveilleuse jeune femme. Et on a besoin de lui pour nous présenter, pour nous lier avec lui, avec elle, pardon. Mais une fois que nous sommes tombés amoureux, on développe une relation intime. Et ce n'est pas que nous n'avons plus besoin de l'ami de l'époux, mais que désormais nous sommes l'épouse. Comme toute relation que l'on souhaite intime, la relation chrétienne, la relation avec Christ, demande du temps. Elle doit être prioritaire. Elle doit être régulière et sincère. Ce n'est pas seulement une relation à sens unique. Je parle et l'autre écoute. C'est un échange. Il parle. Dieu parle dans le silence, dans la lecture et la méditation de la parole. Je lui réponds dans l'obéissance de la foi. Et je lui parle dans la prière. Nous avons besoin d'être seuls avec Christ. Vous savez, un mentor peut vous montrer comment lui-même fait. Il peut vous encourager à rencontrer Christ. Mais il ne peut pas le faire à votre place. Venez dans sa présence, écoutez-le, apprenez à le connaître, observez dans sa parole combien il est aimable, combien il est patient, gracieux, saint, juste, et bon, et fidèle. Vous savez, notre monde aujourd'hui est trépidant. On a une frénésie d'activités, de sollicitations, de projets, de choses à faire, et même nos vacances peuvent être agitées. Et donc, pour pouvoir faire toutes ces choses, on se donne des coachs, des mentors, pour accomplir plus de choses dans le même temps. Peut-être qu'il y a quelques principes qui peuvent nous aider, mais il y a aussi peut-être simplement trop de choses dans nos vies. Et aussi trop de choses qui appauvrissent ou entravent notre relation avec Dieu, les réseaux, la télé, les jeux. Vous savez, on ne peut pas lire les évangiles sans remarquer que Jésus passe fréquemment des moments seul avec son Père. Souvent dans la prière, et cela au milieu d'événements incroyables de son existence et de sa mission. J'ai listé quelques versets dans Luc. Luc chapitre 5, verset 16. Mais lui, Jésus, il se retirait dans les lieux déserts et priait. Ça montre qu'il avait une habitude constante de s'isoler pour prier. Avant de choisir ses disciples, chapitre 6, verset 12, Luc toujours. En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc chapitre 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, Et puis un peu plus loin, versets 28 et 29, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Vous avez remarqué ? Le mentor a pris ses disciples avec lui pour prier. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier !» Et Jésus, à ce moment-là, donne son enseignement sur la prière que l'on a appelée le Notre Père. Peut-être, si vous avez du mal à prier, pourriez commencer avec ça, avec le Notre Père, vous le connaissez ? Priez le Notre Père en pensant à chaque mot que vous dites. Luc 22, 40, dans le jardin de Gethsémané, juste avant d'être arrêté, il est écrit « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Sur la croix, Luc 23, 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis au verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Si Jésus, le Fils parfait du Père, devait entretenir sa relation avec le Père en prenant des temps pour être seul avec lui, comment pourrait-il en être autrement pour nous ? Nous avons besoin d'être régulièrement à l'écart pour être avec Dieu et prier. Avez-vous remarqué que Jésus, alors qu'il était avec ses disciples, priait ? Un mentor, en mentor avisé, il enseignait ses disciples à prier. Je lisais ce matin, en Matthieu, quand Jésus a appris la nouvelle de l'assassinat de Jean-Baptiste, il nous a dit qu'il est parti chercher un lieu désert. On a besoin d'un lieu désert pour être avec Christ. Pour les mentors, engagez-vous à former la prochaine génération, disciples, enfants, jeunes, à suivre Jésus et non pas vous seulement. Pour les protéger, les mentorer, les disciples, apprenez de votre mentor, mais ne placez pas votre espérance ultime dans un homme, mais en Christ. Pour nous tous, recherchons une dépendance radicale avec Christ. Le mentor parfait. Avons-nous des rendez-vous avec Dieu, un endroit désert pour le rencontrer, un fauteuil, un parc, un endroit. Susan Wesley, fin du XVIIIe siècle, mère de 19 enfants, vous voyez un peu le boulot, dont John et Charles, les fondateurs du mouvement méthodiste. Cette Susan Wesley est célèbre non seulement pour sa foi profonde, mais aussi pour sa discipline spirituelle remarquable, dans des conditions très exigeantes, comme vous pouvez l'imaginer. Dans une maison remplie d'enfants, c'était presque impossible pour elle d'avoir un moment de solitude pour prier ou pour méditer. Mais elle savait que c'était vital. Elle a donc mis en place une méthode devenue emblématique. Elle mettait son tablier au-dessus de sa tête. Ça signifiait pour tous les enfants, maman est en prière, maman est avec Jésus, ne pas déranger. Ce geste simple mais clair était son espace sacré, au milieu de l'agitation domestique. Sous son tablier, elle lisait la Bible, elle priait, elle méditait. Ses enfants savaient qu'ils devaient respecter ce moment comme s'il s'agissait d'un temps passé dans une véritable pièce fermée. Les méthodistes, John et Charles Wesley, là, ils ont été appelés méthodistes parce qu'ils avaient cette méthode pour faire des disciples. Et cette méthode pour faire des disciples, c'était d'avoir des temps personnels, disciplinés avec Dieu. Vous voyez, ils ont fait comme leur mentor, comme leur mère. Ils se sont appliqués à refaire cela. C'est un processus de toute une vie, comme les toutes relations intimes, qui va évoluer, qui va s'épanouir pleinement au fil du temps. L'histoire de Joas, elle nous montre la puissance du mentorat et puis la limite du mentorat. Investissons dans des relations de mentorat, mais enracinons notre foi dans le roi éternel qui ne nous abandonnera jamais. J'aimerais vous laisser un petit défi. Cette semaine, prenez le temps d'être seul avec Dieu. Un bon moment, peut-être une heure, sans téléphone, sans autre préoccupation que de rencontrer Jésus, d'être avec lui. Faites ça. Notre église va être changée la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer vraiment pour l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Nous voulons te louer parce que tu nous as rachetés de notre vaine manière de vivre. Tu nous as, toi, tu as pris l'initiative de nous sauver, de nous arracher aux ténèbres. Et puis, tu as promis de nous garder, de veiller sur nous, parce que tu es toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Seigneur, nous te prions que tu nous viennes en aide, parce que toutes nos résolutions n'ont pas réussi. Et l'agitation de ce monde nous enlève à ta présence bien souvent. Pardon. Aide-nous à te replacer là au cœur de nos vies pour une relation personnelle. Et peut-être si ce matin il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore pris Christ comme maître, comme sauveur, parle à son cœur. Touche-le. Montre-lui combien il a besoin de toi. Qu'il se repente et place sa confiance en toi, mort pour lui, pour elle. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Transforme nos cœurs par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.